Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le grand débat national se poursuit au lendemain de l'acte 11 des Gilets jaunes. Et parmi les nombreux enjeux, il y a cette question. Les jeunes seront-ils les grands absents de cette grande consultation nationale? Pour répondre à cette question, à La Rochelle hier, ils étaient 150, âgés de 16 à 29 ans, lauréats de l'Institut de l'engagement, pour leur engagement citoyen, choisis pour participer à un débat avec Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et co-animatrice du Grand Débat. Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, était également présent, Louise Bouinens.
Pourtant, ce débat tente de répondre aux critiques. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de l'éducation et de la jeunesse.
On entend beaucoup les médias ces derniers temps dire est-ce que les jeunes vont participer au Grand Débat national. Tous les jeunes, qu'ils soient engagés ou pas, politisés ou pas, ont leur place dans le débat et ont des choses à dire.
150 jeunes dans la salle prennent la parole.
Bien sûr, moi je ne me sens pas légitime.
Ils s'adressent à Emmanuel Wargon, secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire.
Ils sont là pour parler de fiscalité, parce qu'eux aussi ils payent des impôts. Ils sont là pour parler de démocratie, ils sont là pour parler de services publics. Ils doivent s'emparer des thèmes qu'on a mis au débat, parce que le débat, c'est pour eux.
Pour des jeunes qui ont quasiment tous fait un service civique, ils sont engagés, politisés.
On n'est pas toute la France, on n'est pas tous les jeunes. Il y a des avis qu'on n'a pas entendus.
Inclure ces avis, ça passe forcément par l'école, d'après Léa, 21 ans.
La valorisation de l'engagement comme l'Institut fait, mais dans l'école, c'est-à-dire des intervenants peut-être plus jeunes, pour qu'on puisse s'identifier à eux et sur des sujets qui s'y connaissent, des intervenants qui sont spécialisés sur les migrants, la démocratie.
Mais pour beaucoup reste le sentiment de ne pas avoir été entendu.
C'était un exercice de communication. Dans les faits, de manière générale, les jeunes, leur avis n'est pas assez pris en compte dans la société.
On sent la frustration, à peine une heure de débat et les deux secrétaires d'État s'en vont. Ils promettent tout de même de recevoir à Paris certains jeunes pour discuter de leurs propositions.
Louise Bouinens. À Paris, le ministère de l'Intérieur a compté 4000 gilets jaunes hier, contre 7000 il y a une semaine. Les Gilets jaunes contestent ces chiffres. Alors qu'un membre influent du mouvement, Jérôme Rodrigue, a été blessé à l'œil par l'éclat d'une grenade de désencerclement, selon des sources policières. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Maxime Nicole, autre figure emblématique des Gilets jaunes, a été interpellé hier lors d'une manifestation dans le centre de Bordeaux, puis relâché dans la soirée. Et c'est aujourd'hui que ce sont les foulards rouges qui entrent en scène. Ils appellent à manifester en opposition au mouvement des Gilets jaunes pour un rassemblement intitulé « Marche républicaine des libertés » à Paris et qui partira à 14h de la place de la Nation vers la place de la Bastille. Un rassemblement qui se veut apolitique mais qui est accusé d'être une manifestation pro-Macron selon les Gilets jaunes. Laurent Soulier est l'un des initiateurs des foulards rouges. Cet ingénieur de 51 ans à Toulouse a lancé ce mouvement au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, c'était le 10 décembre dernier, annonce sur la hausse de la prime d'activité et l'annulation de la hausse de la CSG pour la plupart des retraités.
Je suis soulagé, il a lâché, et je me dis super. Et je m'attends à une réaction positive. Et ce que j'ai entendu, j'ai pas compris. J'ai entendu, il a rien lâché, il s'est moqué de nous. Et là, j'ai été pris d'un mélange de tristesse et de colère. Et je me suis mis sur mon ordinateur seul et j'ai créé une page Facebook que j'ai d'abord appelée « Gilet jaune, maintenant ça suffit », que j'ai renommée dès le lendemain matin « Stop, maintenant ça suffit », parce que je ne peux pas m'adresser aux gilets jaunes en leur demandant d'arrêter de manifester ou d'exprimer leurs revendications. C'est pas du tout ça. C'est un stop aux violences. C'est un stop à la haine. C'est un stop au blocage. Donc aucune cause juste ne nécessite autant de violence pour être entendue.
Laurent Soulier répondait à Alain Gastal. Des atteintes graves à la démocratie et aux droits de l'homme, on en trouve notamment en Égypte, où Emmanuel Macron se rend aujourd'hui pour rencontrer le président Al-Sisi pour renforcer le partenariat stratégique entre la France et l'Égypte autour de grands contrats d'armement. Les ONG qui ont adressé une liste de 30 prisonniers politiques à libérer dénoncent la timidité de la France sur la question des droits de l'homme, Christian Chéneau.
Dans la balance des exportations françaises d'armement vers l'Égypte, la question des droits de l'homme ne pèse pas lourd. C'est ce que dénoncent les ONG qui dressent un tableau très noir de la situation sur les bords du Nil. Au nom de la lutte contre le terrorisme, près de 60 000 personnes ont été emprisonnées depuis l'arrivée au pouvoir en juillet 2013 du président Sisi. Ahmed Benchensi, de Human Rights Watch.
tout opposant au régime, qu'il soit journaliste, blogueur, politicien, membre des Frères musulmans, laïque, de gauche, quel qu'il soit, qui sont arrêtés, subissent le même protocole, si j'ose dire, d'arrestation, d'emprisonnement arbitraire, de disparition forcée, de torture. 19 prisons. Je ne sais pas si vous imaginez, 19 prisons, des grands centres pénitentiaires ont été ouverts uniquement sous ce régime parce que l'afflux de prisonniers politiques était tel qu'il fallait construire 19 prisons pour les accueillir. C'est quand même extraordinaire.
Et en même temps, la France est devenue un fournisseur d'armes de premier plan pour l'Égypte avec des contrats majeurs concernant les rafales des navires de guerre ou encore des véhicules blindés légers. Pour Antoine Madelin de la FIDH, le partenariat entre la France et l'Égypte est devenu schizophrénique.
La France dit qu'elle va promouvoir ou essayer de défendre la question des violations des droits de l'homme en Égypte. Et derrière, finalement, elle participe à l'équipement de cette répression en vendant des matériels qui permettent de surveiller la population et poursuivre les activistes en Égypte. C'est une forme de complicité que l'on a dénoncée dans les rapports que nous avons publiés.
D'autres contrats d'armement sont dans les tuyaux. On évoque la vente de nouveaux rafales ou encore de drones de surveillance.
Christian Chesneau. Alors qu'une nouvelle grande marche pour le climat est prévue aujourd'hui, l'Allemagne, la commission du charbon en Allemagne, a décidé de stopper l'exploitation de cette ressource très polluante à l'horizon 2038, Nathalie Versieux.
20 ans pour sortir du charbon, c'est peu, alors que cette ressource polluante représente aujourd'hui 80% de la production d'électricité dans le pays. La sortie du charbon sera coûteuse, jusqu'à 80 milliards d'euros au total pour reconvertir des régions entières et limiter la hausse du prix de l'électricité. Le dossier était particulièrement sensible, bien plus que celui du nucléaire. Dans un pays qui a longtemps tiré sa richesse du charbon et de l'acier, la houille et le lignite font polémique. Des régions entières dépendent du charbon, notamment en ex-RDA. L'Allemagne ayant décidé de tourner le dos au nucléaire à l'horizon 2023 à la suite de l'accident de Fukushima, le pays a considérablement renforcé au cours des dernières années l'exploitation de son charbon avec des conséquences catastrophique pour son bilan climatique. L'image d'Angela Merkel, un temps baptisée la chancelière du climat, en a fortement souffert. À cause du charbon, l'Allemagne ne pourra tenir les objectifs climat qu'elle s'était fixés pour 2030.
Le temps des averses dès ce matin sur la plupart du pays, de la neige sur les Alpes, des orages signalés cet après-midi sur le centre. Le soleil brillera en revanche au bord de la Méditerranée. Les températures, moins 1 à 12 degrés avec moins 1 à Chambéry, 8 à Paris et 12 à Narbonne.